podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv. Alexandre Barlier.
Life on Mars est une série télévisée britannique diffusée entre le 9 janvier 2006 et le 10 avril 2007 sur BBC One. La série compte 16 épisodes de 60 minutes. Évidemment, le casting et les créateurs sont britanniques et connus principalement outre-Manche. Dans le rôle principal, on peut voir John Sim. Certains d'entre vous l'ont peut-être aperçu dans le film Human Traffic ou dans la série Doctor Who. Les deux autres acteurs principaux sont Philip Glenisor dans le rôle de Gene Hunt et Liz White qui incarne l'agent Annie Cartwright. Son nom est Sam Tyler, il est commissaire principal à Manchester en 2006. Peu après l'enlèvement de sa fiancée par un tueur en série, il est renversé accidentellement par une voiture et se réveille en 1973, une époque où les ordinateurs portables et les téléphones mobiles n'ont pas encore été inventés. Devenu inspecteur sous les ordres du chef Gene Hunt, Tyler démêle des enquêtes policières à l'aide de méthodes modernes. Dans le même temps, il essaie de comprendre ce qui lui arrive. Est-il mort dans le coma ou bien dans le passé ? C'est Sarah qui va essayer de nous en parler aujourd'hui et de nous donner la solution en tout cas. Pour en discuter avec nous, Nathanaël Picasse.
Bonjour.
Et Tilman Villette.
Bonjour.
Life on Mars, le titre dit bien un peu ce qu'il veut dire. D'abord, c'est un peu être sur Mars parce qu'effectivement, être dans les années 70 par rapport aux années 2000, apparemment, c'est à peu près aussi étrange que d'être sur Mars.
C'est un peu comme si Gil Grissom allait enquêter dans les bureaux de l'inspecteur Derrick.
Oui, c'est tout à fait ça en fait. Et c'est un des propos d'ailleurs de la série. Mais alors, c'est aussi la chanson de David Bowie, pardon, la chanson du grand David Bowie, qu'il écoutait dans sa voiture justement au moment de l'accident. Et donc, c'est déjà un premier élément intéressant puisque, comme tu l'as dit, il se demande pendant tous les épisodes s'il est vraiment dans le passé ou s'il est bien enfermé dans sa tête et donc dans le coma. Ça pourrait donner un indice. Est-ce que le fait que justement cette musique l'influence dans l'année 1973 ne serait pas un indice ?
Encore heureux qu'il n'écoutait pas la chanson « Do you Saint-Tropez » ou un truc comme ça quand il a fait son accident, ça aurait été nettement plus moche.
Oui, ça aurait pu être pire. Et puis un truc allemand, il se serait retrouvé chez Derrick pour le coup.
C'est affreux.
Voilà. Alors évidemment, c'est très compliqué quand vous avez vu ce type de personnage d'atterrir dans un moment où l'ADN n'existe pas, où on a à peine les empreintes digitales, mais on les prend comme des branques. La première question qu'il pose à sa nouvelle équipe, il est devenu commissaire, et non plus commissaire principal, mais il a quand même tous les inspecteurs sous ses ordres, et la première question qu'il leur demande, c'est « Est-ce que vous avez fait des repérages sur la scène du crime ?» Et ils font « Vous voulez dire le lieu du meurtre ?» Enfin bon. Donc là, on comprend qu'effectivement, il va y avoir un petit problème culturel entre ces personnages.
Moi, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est s'il fait un bon, un retour en arrière de 30 ans, quelle est sa place dans ce passé, en fait ? Est-ce qu'il a déjà un passé dans ce passé ?
Alors, c'est ça qui est très très bien fait dans cette série, c'est que quand il arrive, en fait, il a le même nom, il est Sam Tyler, il n'est plus commissaire principal, il est commissaire, il est toujours dans la même ville, c'est Manchester. Et en fait, on apprend qu'en 1973, il a eu un accident gravissime de voiture qui a occasionné une longue convalescence et qu'il est muté d'une compagnie à une autre. Et donc, il arrive dans une nouvelle brigade dans laquelle il est inconnu, dans laquelle on sait qu'il est un enquêteur brillant, mais qui a eu un accident. Ce qui peut expliquer que parfois il soit bizarre, ce qui peut expliquer aussi, puisque les pratiques ne sont pas les mêmes et la compagnie dont il vient est réputée comme étant très progressiste, ça peut expliquer que parfois ils connaissent des choses, notamment sur des techniques d'enquête, que eux ne connaissent pas. Donc ça, c'est assez bien foutu. Maintenant, il y a aussi toutes des choses qui sont un peu contradictoires, dans le sens où il se retrouve dans son propre passé, parce que Sam Tyler existait à Manchester en 1973, il avait 4 ans à l'époque, et donc évidemment, il y a des choses qui vont se jouer là derrière. Mais globalement, c'est assez fluide, en tout cas dans son arrivée, et on comprend quand même que les personnages, au début, se disent bah, « Tiens, oui, il est un peu farfelu, il est un peu bizarre. » Il parle, par exemple, de portable à un policier qu'il retrouve parce qu'il se fait faucher par une voiture. Et quand il arrive en 1973, il est couché par terre à côté d'une voiture. Et donc, il demande au policier « Est-ce que vous avez trouvé mon portable ?» Il n'a pas encore repéré à ce moment-là qu'il avait fait un saut dans le temps. Et le policier lui dit « Mais quoi ?» Et alors, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Qu'est-ce que c'est cette voiture ? C'est pas ma voiture, moi je conduisais une Jeep. »« Ah bon, vous conduisiez un véhicule militaire ?» Donc voilà, il y a tout ce quiproquo qui n'est pas mal fait. Quand il arrive donc dans cette division dans laquelle il était censé arriver, il rencontre Gene Hunt, qui est pour le coup, lui, le commissaire principal. Pour le genre, il est bourru, alcoolique, ripoux, sexiste, homophobe, violent, corrompu, immoral, il aime beaucoup les blagues très vaseuses et si possible à caractère sexuel, surtout quand une agent féminine est là. On comprend qu'il est à peu près l'opposé de Sam dans ses pratiques, parce que Sam, lui par contre, il est moral, il est justicier, enfin vous voyez un peu le genre. Parfois un peu trop d'ailleurs, un peu chiant comme ça. Mais bon.
Il est un peu lisse hein, comme
personnage. Oui, trop, enfin c'est abominable. Il y a des fois on a envie de lui donner des baffes, quoi, ça c'est clair. Mais Gene Hunt, lui, est quand même loyal. Et il est quand même intelligent, ce qui fait que quand il fait des conneries, il s'en rend compte et que généralement, il peut s'en sortir par une entourloupe et sauver la face. Face à lui, il a aussi Chris Skelton, qui est un jeune inspecteur très maladroit, qui généralement est la risée de tout le commissariat parce qu'il n'arrête pas de faire des conneries, ou justement, on lui fait des blagues, vous voyez un peu le genre. Il est très effacé au début, mais justement très intéressé par les nouvelles techniques ou les nouvelles idées de Sam, et notamment son côté très clean comme flic. Ça le change de Gene, évidemment. Donc il tente de lui ressembler, c'est un assez bon élève pour lui, et aussi, la plupart du temps, c'est un adjuvant dans ses prises de bec avec les autres policiers. Rick Harling, par contre, lui, qui est son opposé total par rapport à Chris, mais par rapport aussi à Sam, c'est-à-dire que, évidemment, déjà, il rêvait d'être promu commissaire. Quand l'autre arrive, ben c'est terminé. Et en plus, il n'aime pas du tout les méthodes de Sam, qu'il trouve trop clean. Il est plutôt, lui, du genre flic bourru, violent, sexiste, raciste, homophobe, enfin, un peu comme Gene Hunt. La différence, c'est que lui n'est pas intelligent. Et que là où Gene peut parfois reconnaître ses erreurs, s'associer avec Sam ou s'en sortir très vite, l'autre, pas. C'est-à-dire qu'il va toujours trop loin, de toute façon. Et généralement, ça lui vaut des sales coups. Il s'oppose tout le temps à Sam. Donc on a une dynamique de personnage ici qu'on dessine très vite dès le premier épisode. Et puis, il y a aussi Annie Cartwright, qui est donc une agent. Elle fait partie de la brigade féminine. Et au début, Sam lui dit « Partie de quoi ?» Et alors, elle dit « Mais c'est une nouveauté, il faut vivre avec son temps. » Donc, vous voyez, tout le temps des choses un peu rigolotes comme ça. Petit à petit, elle va prendre de l'assurance parce que Sam, qui a vécu en 2006 et qui donc n'a pas du tout la même vision que ses confrères sur les femmes au sein de la police, lui confie des responsabilités, donc elle prend de l'assurance au fur et à mesure. Elle est aussi très intelligente et donc elle a évidemment la capacité de s'en sortir. Par rapport à Sam, elle va être aussi sa confidente parce que c'est la seule à qui il parle et il avoue dès le début « Je viens de 2006, j'ai rien à faire ici et je veux m'en aller » et elle le prend un peu pour un fou, faut quand même avouer ce qui est. Elle ne va jamais totalement croire à son histoire, mais en tout cas elle l'écoute. Donc elle devient sa confidente et c'est le personnage qui va devenir aussi important dans un côté pas de vie privée, parce qu'il n'y a pas vraiment de vie privée. Il n'en veut pas de toute façon, enfin, il ne veut pas rester là, mais en tout cas dans un côté un peu plus privé. Il y a une tension sexuelle évidente entre ces deux-là, donc on tombe vraiment, alors pour le coup peut-être dans un cliché des années 70, ça c'est le cas de le dire. Il y a aussi plein d'autres personnages secondaires qui donnent de la couleur à ces épisodes, je n'en parle pas, mais par exemple le tenancier du café ou Phyllis qui est à l'accueil, etc., etc.
J'ai eu un accident. Et à mon réveil, je me retrouve 33 ans en arrière. Ce qui veut dire que soit j'ai voyagé dans le temps, soit je suis un fou furieux, soit je suis couché dans un lit d'hôpital en 2006 et rien de tout ceci n'est réel.
33 ans dans le futur? C'est de là que vous prétendez venir?
Vous voyez, Maya, c'est ma petite amie. Elle a été kidnappée par le même agresseur que celui qui a étranglé Suzy Tripper hier.
Je crois que vous devriez retourner à l'hôpital pour qu'il rejette un œil à votre commotion cérébrale.
Il l'a séquestré une journée, et ensuite, vous ne voyez pas, c'est le même tueur dans les deux époques.
Délire paranoïaque apparu suite à un accident. Ce n'est pas dû aux commotions, c'est psychologique.
Plutôt calé pour une simple auxiliaire.
J'ai suivi des cours de psychologie à l'université. Je pense que vous avez un problème d'ordre médical et que vous devriez vous reposer quelques jours pour aller consulter quelqu'un.
Et si vous étiez mon esprit qui veut me convaincre que tout ceci est réel?
Vous allez devoir résoudre ce mystère tout seul.
Merci. Merci d'avoir écouté. D'avoir écouté tout ce que je vous ai dit et de ne pas avoir contacté l'asile de fous.
Commissaire Tyler, vous êtes vraiment différent de tous les autres et vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que ce que vous m'annoncez ne peut être vrai.
Il y a déjà toujours ce côté décalé entre les deux époques, évidemment, qui ne cesse de temps en temps, dans un détour de dialogue ou d'objet, de nous faire rire. Donc ça participe évidemment du côté un peu humoristique de cette série. Alors là, je vais vous parler plutôt du côté série et feuilleton, parce qu'il y a les deux dans cette série. Évidemment, à chaque épisode, on a une nouvelle enquête. Parfois deux, mais souvent c'est une.
C'est pas nécessairement ce qu'il y a le plus palpitant dans la série.
Non, ça c'est clair. Alors par contre, Ils annoncent ça comme étant, puisque tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans le lancement, un des axes narratifs, c'est justement de montrer un policier des années 2000 qui est replongé dans les anciennes manières de faire, etc. Donc ils le lancent malgré tout comme un axe narratif. On se dit, bah, tiens, on va vraiment avoir un type qui se heurte, qui demande de l'ADN, qui va avoir des problèmes, qui doit changer sa manière de faire. Ça arrive au début, et puis après c'est un peu oublié, ça il faut quand même l'avouer. Et c'est dommage, parce qu'à mon avis, je trouvais que ce côté-là, justement, de redécouvrir un peu comment on a pu faire avant toute cette technique, peut-être poser un regard sur la technique, ou sur la non-technique, je n'en sais rien, ça aurait pu être assez intéressant. Mais bon, on l'oublie. Donc généralement, on a des épisodes avec des enquêtes qui permettent d'avancer dans ce Manchester des années 70. Il apprend quand même un petit peu à ses équipiers, notamment à être un peu plus éthique, un peu plus systématique aussi, à ne pas faire ce que Jin Hun fait toujours, c'est-à-dire qu'il emmène les gens en salle d'interrogatoire et puis les frappe. Donc voilà, bon, il essaye de ne pas faire ça tout le temps en tout cas. Surtout quand c'est son papa d'ailleurs qui est... Oui, parce qu'il y a un moment où il va croiser son papa en salle interrogatoire. Ça, c'est pour le côté série, donc il y a cet humour récurrent et il y a les enquêtes. Mais on a surtout un côté feuilleton. Je dis surtout, mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. On a un côté feuilleton qui est là, qui n'est pas prédominant non plus. Donc c'est ça qui est parfois un peu compliqué, on ne sait pas très bien sur quel tableau il joue.
Parce que certains épisodes, le côté feuilletonisant n'est quasiment pas du tout présent.
Et il est complètement déséquilibré entre les deux saisons aussi. Il est beaucoup plus présent sur la première saison que sur la deuxième. On l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il est dans le coma ? Est-ce qu'il est dans le passé ou est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est fou? Parce qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Alors, dans le coma, il faut savoir qu'il entend le bruit du monde de 2006, puisque la série commence en 2006, donc au départ il est en 2006. Donc il entend les gens qui parlent, il entend les médecins qui font des pronostics, il entend le bruit des machines et des respirateurs. Ça arrive parfois de manière complètement incongrue dans certains épisodes. Parfois ça arrive à des moments qui sont canoniques et dont on sent que quelque chose va arriver quand il est chez lui, par exemple, enfin chez lui, dans sa chambre de bonne. On sait que très souvent, la télévision est un des vecteurs entre les deux époques. Et donc, on sait que souvent, il va s'endormir devant la télévision, ou alors il va écouter la télévision, et la télévision va lui parler, enfin, ou les personnages qui sont à la télévision vont lui parler. Les moyens de transmission et de communication en général fonctionnent fort comme ça. Les radios, parce qu'ils avaient des talkie-walkie, les radios TSF, etc., sont des moyens par lesquels ça arrive souvent. Mais parfois, ça arrive de manière complètement incongrue. Il interroge quelqu'un et cette personne lui dit une phrase qui n'est manifestement pas dite par cette personne à ce moment-là et qui est dite par quelqu'un d'autre et qui est hors contexte. Et d'ailleurs, il a souvent un mouvement de recul et puis tout le monde le regarde. Et je pense que seul lui a entendu cette phrase. Alors, est-ce que ça montre qu'effectivement il y a des liens entre deux époques ou est-ce que ça montre qu'il est fou ? Les deux interprétations sont toujours correctes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle ne tranche pas et qu'elle le fait de manière assez admirable. Alors, il faut quand même se rendre compte qu'il y a aussi un moment qui est complètement flippant. On en parlait justement. Un des moyens les plus importants de faire passer certaines choses dans cette série, c'est d'utiliser la petite fille qui était dans la mire de la BBC. C'est-à-dire que la mire de la BBC, c'était pas la mire comme en France ou en Belgique avec des petits carrés de couleurs. C'était une petite fille avec un nounours dans les bras ou un clown, je ne sais plus. Et que de temps en temps, elle lui parle. Et je trouve ça très flippant. Généralement, on a l'impression d'être au milieu de Shining. On se dit, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Et elle n'est pas très gentille, d'ailleurs, cette petite fille. Hein. Je ne sais pas si elle l'a traumatisée quand il était petit ou quoi, mais bon, elle n'est pas très sympathique.
Ça fait peur.
Et souvent, il y a une espèce de lumière, et donc elle est à la fois un peu moralisatrice. Ça vaudrait la peine, peut-être, que je revoie toutes les phrases qu'elle lui a dites petit à petit, ce que je n'ai pas fait, je vous avoue, pour voir ce qu'elle lui dit. Il y a donc ce monde 2006 qui rejaillit de temps en temps. Et on ne sait pas très bien si c'est parce qu'il est effectivement dans le coma, si c'est parce qu'il est fou ou s'il est mort ou quoi que ce soit. Il y a aussi un espèce de mystère dans ce feuilleton. Au-delà du coma, on sent qu'il n'est pas là par hasard. Dans la première saison, c'est très fort parce qu'il y a une image récurrente qui évidemment se construit et s'additionne d'autres images petit à petit durant la saison, d'une marche dans les bois. Et on ne sait pas très bien ce que c'est. Et de plus en plus, en tout cas dans cette première saison, on se rend compte qu'il rencontre des gens qu'il a connus quand il était adulte, ou qu'il a toujours connus. Il revoit sa maman, il revoit son papa, il revoit une tante, il revoit son premier coéquipier quand il était jeune et qui vient d'entrer à la police. Et donc on sent qu'il y a une espèce d'histoire familiale latente qu'il redécouvre petit à petit dans la première saison. Mais on n'a pas l'impression que ça donne vraiment quelque chose dans la seconde. Donc, au début, on se dit, une fois qu'il aura trouvé son secret, il pourra rentrer chez lui, et c'est pour la raison pour laquelle il est là, et puis ça n'est plus exploité. Donc, bon, ça c'est une première chose. Mais on sent quand même aussi qu'il n'est pas là par hasard, et que les éléments qu'il rencontre en 1973 ne sont pas inintéressants. Par exemple, dans le pilote, il enquête sur un serial killer. Quand il arrive dans les années 70, c'est le même serial killer sur lequel il enquête dans sa première enquête. Donc c'est pas non plus innocent. Et évidemment, s'il parvient à le boucler en 1973, sa fiancée ne sera pas kidnappée par ce type 30 ans plus tard. Donc effectivement, il y a toujours des enjeux. Ce qu'il pose comme action en 73 peut avoir des conséquences. Et les deux temps sont très souvent connectés, soit par des passages qui ont des influences et souvent même des influences sur lui-même. C'est-à-dire que par exemple, dans un épisode de la saison 2, il sent qu'il n'est pas bien en 2006. Il sent vraiment une chose toxique. Et il est malade d'ailleurs en 1973. Et en fait, il apprend petit à petit qu'un criminel qu'il a l'occasion d'arrêter aujourd'hui, en 1973, vient de sortir de prison en 2006 et en fait menace sa vie pendant qu'il est sur son lit d'hôpital dans le coma. Et donc effectivement, de nouveau, son action en 1973 va avoir ou peut avoir une incidence sur 2006, en sachant que là, pour le coup, il doit complètement oublier son éthique parce qu'il doit le faire boucler avant qu'il ne devienne un criminel, puisque en 1973, le type n'est pas encore un criminel. Et alors, dernière chose, dans un épisode aussi, on menace de le débrancher en 2006, parce qu'il est dans un état dit végétatif, ce qu'il conteste évidemment constamment. Dans cet épisode-là, un type maintient des gens en otage et menace d'en tuer un pour 14 heures, qui est l'heure à laquelle on va le débrancher. Donc on voit de nouveau que toutes ces époques sont interconnectées.
Nous avons noté que l'ensemble des angles géométriques implantés dans notre ratio x à n pourrait résulter d'un simple chiffre a en tant que constante de 10, ainsi que décrit précédemment. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la régulation de sa respiration. C'est pour cela que nous devons conserver le tube trachéal en place. Je tiens à signaler que Sam est en état de basse réceptivité sans pour autant être dans un état végétatif constant, bien qu'il ait subi plusieurs traumatismes crâniens. Mais l'échelle de Glasgow le place néanmoins à un niveau de coma profond.
Hé, hey, vous êtes en train de parler de moi? Je suis là, je vous entends, regardez-moi là, ici!
Par moments, il arrive cependant à bouger. Ce sont les nerfs. Il a des sortes de réflexes moteurs comme s'il se trouvait dans une phase de sommeil paradoxal dont il ne parviendrait pas à se réveiller. Ce qui nous laisse l'espoir, malgré les lésions du tronc cérébral.
Hé hey hey, je suis ici! Regardez-moi! Vous trouvez que j'ai un faible taux de réceptivité? Je suis ici!
Sam? Sam?
Je vous entends, je vous entends!
D'ailleurs?
Oui, oui! Attendez! Non! Attendez, ne partez pas, j'ai une bonne assurance! Pitié, ne partez pas! Non! Je vous en prie, je suis ici! Ne me laissez pas seul ici! S'il vous plaît! Je vous en prie! Pitié, ne me laissez pas!
Les années 70 dans la série, ça c'est grand intérêt. Je sais pas comment d'autres personnes qui voient les choses le ressentent, mais moi j'ai trouvé que cette espèce de reconstitution des années 70 c'était très drôle, parce que on ne cesse d'avoir des éléments qui font rire, sourire. C'est vrai que c'est une esthétique qu'on a bien en tête parce qu'elle revient un peu en ce moment, le brun, les fleurs, les carreaux, etc. Les décors en général, j'ai trouvé qu'ils étaient excessivement bien faits. Or, j'ai vu sur internet qu'il y avait des erreurs de temps en temps, et qu'il y avait par exemple du mobilier urbain qu'ils avaient oublié d'effacer ou des choses comme ça, mais moi ça ne m'a franchement pas marqué, je vous avoue. Les instruments, les murs, le mobilier, les habits sont assez bien reconstitués, je trouve, et ça c'est assez intéressant. Même l'électroménager, et donc on a vraiment parfois l'impression d'être sur Mars, hein, autant le dire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette époque? Et comment faisait-il sans GSM?
Et ce qui nous ramène aussi à notre époque où on se dit peut-être que dans 20 ans on se regardera en arrière et tout ce qu'on trouvait génial ou hyper à la pointe de la technologie, on va regarder ça avec beaucoup de dédain.
Mais en même temps, je crois que c'est exactement ce qui se passe maintenant quand on regarde un épisode de Starsky et Hutch. On trouve ça totalement dépassé parce que voilà, au niveau technologique, ils sont nulle part, quoi.
Et c'est ce que je trouve parfois aussi un peu dommage, c'est qu'ils ont très bien su l'utiliser dans des espèces de clins d'yeux, dans un décalage pour le personnage, mais ils n'ont pas mené ça jusqu'au bout sur la critique vraiment de la technologie, ou pas, parce que je pense qu'il y avait des bonnes choses dans les années 70 et qu'il y en a probablement des bonnes maintenant, et ça ne va pas jusque-là. Et ça, je me dis, c'est dommage, parce que je pense que ça n'aurait pas alourdi les épisodes nécessairement, puisque ces enquêtes ne servent de toute façon pas à grand-chose, donc on aurait pu annoncer ça un peu plus précisément. Alors, ce qui est très dingue aussi et jouissif par rapport aux années 70, c'est la bande-son. Il faut quand même avouer, bon, évidemment, je suis une grande fan de David Bowie, tout le monde l'aura compris. Et je pense que ça doit être lui qui a le plus de chansons au fur et à mesure. Il n'y a que des chansons de 1973, je pense, ou en tout cas proches. On a les Who, Deep Purple, les Rolling Stones, Elton John, Bowie, évidemment.
T-Rex.
Oui, T-Rex, c'est vrai. Au niveau de l'ambiance musicale, enfin, c'est vraiment très chouette. Et très souvent, elles sont assez bien utilisées. C'est-à-dire que je n'ai pas tout le temps fait attention à la chanson, à la musique qui était utilisée par rapport au moment. Mais dans les moments importants, en tout cas, on tire l'oreille et on se rend compte que, ah oui, la chanson qu'elle a, c'est pas rien, c'est pas mal, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je dis c'est bien reconstitué et en même temps, c'est pas si réaliste que ça. Donc c'est ça aussi qui est chouette avec cette série, c'est qu'elle ne nous met pas face à une série réaliste sur les policiers de 1970. Et d'ailleurs sur internet, c'est assez souvent souligné ce décalage, mais non, c'est pas du tout comme ça que la police officiait, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, et tu as fait le lien tout à l'heure avec Starsky et Hutch, que cette série ne reconstitue pas les policiers réels des années 70, mais bien les séries télé des années 70. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement dans un schéma où on a le commissaire qui beugle face à ses subordonnés, on a les voitures dont les pneus crissent, donc ça fait très très Starsky et Hutch et autres d'ailleurs.
En fait, on reprend un petit peu l'imaginaire actuel pour le reprendre dans les années 70, en fait, pour faire une assimilation entre ce qu'on pense vraiment des années 70 actuellement.
Et ce qu'on pense à travers justement ce qu'on en a vu, c'est-à-dire justement tous ces cop shows notamment, dans lesquels, effectivement, je ne crois pas que Starsky et Hutch est habillé comme la moyenne habituelle des gens dans les années 70, par exemple.
Ce qui peut aussi renforcer la théorie du fait que le personnage, ce ne soit pas la réalité, en fait.
Ouais.
C'est son imagination.
C'est une des théories, c'est que le fait que justement, en fait, il n'est pas dans un vrai 1973, il est dans ce qu'il en a vu, dans ce qu'il en a connu, etc. D'ailleurs, c'est vrai que sa mère, elle est la mère qu'on a quand on a 4 ans, elle est idéale, et sa mère, elle est idéale. Donc bon, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment une série qui, pour ça, est intéressante. Il y a aussi, mais ça, je dois vous avouer que je ne suis pas du tout une grande spécialiste, paraît-il, un lien avec Le Magicien d'Oz. C'est vrai que c'est assez évident, Le Magicien d'Oz, c'est Dorothy qui part de son monde actuel pour aller dans un monde de rêve et qui revient dans son monde actuel, qui recherche d'ailleurs à retourner dans ce monde actuel et le moyen d'y retourner. Oui, ça se comprend, mais je suis incapable de faire les liens entre les personnages, le lion, le robot, enfin, ça je dois vous avouer que je n'en suis pas capable. Vous avez entendu que je suis un peu partagée sur cette série. À la fois j'aime bien, à la fois je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes, et à la fois des fois je trouve qu'ils ont loupé certains éléments. Je trouve qu'il y a aussi un petit problème de rythme, et pourtant c'est dommage parce qu'ils savaient que ça allait durer 2 saisons, ils ont décidé de l'arrêter en connaissance de cause. La première saison, on sent qu'ils savent ce qu'ils font, notamment avec cette histoire familiale. La deuxième saison, on a l'impression qu'ils savent plus trop, et puis tout se dénoue très vite finalement sur la fin, et on nous donne les clés de ce qu'on attendait et une espèce de clé finale qui évidemment est un peu ambiguë, ça c'est logique, et qui est un peu convenue aussi, parce que moi je m'attendais très bien à ce que ce soit ça qui arrive, bizarrement. Dans les relations entre les personnages aussi, on sent que c'est vers ça qu'on se dirige petit à petit. Donc je trouve qu'il y a des bonnes choses, et je pense que cette série, elle gagne à ne pas faire 3 ou 4 saisons. Je pense que tout ce côté découverte petit à petit de ce milieu des personnages tient la route sur 2 saisons, ne tiendrait pas la route sur 3, et qu'ils ont malgré tout loupé un peu parfois certaines choses plus récurrentes. Je sais pas comment tu ressens, Alex, parce que tu l'as vu aussi cette série.
Mais non, je suis plus ou moins de ton avis, oui. Même plus que moi.
Il faut savoir qu'il y a une spin-off, une série dérivée de cette série qui s'appelle Ashes to Ashes, encore David Bowie. Pour les fans de David Bowie, ils savent que c'est une chanson des années 80, donc on imagine qu'on change d'époque. C'est une suite dans laquelle Sam Taylor n'est plus, mais où on retrouve Gene Hunt. Je ne l'ai pas vu, ça n'a pas encore été diffusé en France ou en Belgique. Voilà, et je ne peux pas vous en dire grand-chose de cette saison. Et par contre, il y a un remake américain de cette série.
Dont aura l'occasion de nous parler très prochainement.
Un jour, oui.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.